parlamo. Enregistrer derrière. T'enregistres là?
Ouais, là j'ai eu.
Oui,
Ouais,
non,
je
tu
l'ai
fais
mis.
bien. Même on va monter un tout petit peu.
Par contre, du coup, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'on parle à côté.
Oui, bien sûr.
Bon, mais écoutez, le débat est ouvert, donc voilà, vous avez le réalisateur devant vous, vous pouvez lui poser des questions. Moi, je passerai le micro plutôt.
Bonsoir. J'aurais pas les mots qu'il faut pour vous féliciter pour tout ce que vous avez montré dans ce film. Surtout pour aussi la qualité des personnes que vous interrogez. Et ma question serait est-ce que ces personnes, notamment donc côté la société civile israélienne, est-ce qu'ils s'expriment dans la vie de tous les jours?
Heureusement, oui. Oui, la réponse simple serait oui, mais je pense qu'on comprend bien maintenant que la question dans certaines sociétés, c'est pas la liberté d'expression, c'est la liberté d'écouter. Et donc voilà, c'est-à-dire oui, ils s'expriment, mais la question c'est pas s'ils s'expriment, la question c'est si on les écoute. Et là, la réponse serait non. Moi aussi, je m'exprime. Amnon Raz, l'historien qui est là, il s'exprime. Mais bon, je ne vais pas être vulgaire, mais c'est presque comme pisser dans un violon. C'est tous les pièges, si vous voulez, c'est tous les pièges de ces mythologies libérales de la démocratie occidentale dans lesquelles tout le monde a les droits d'expression. Les droits d'expression, hein, l'expression ouverte, libre, absolue, totale, etc. C'est comme les diapos. Quand on était enfant, il y avait des diapos, c'est-à-dire on prend une image, une image, une image, et quand on met quatre diapos une après l'autre, ça devient noir, c'est-à-dire on ne voit plus rien. Donc oui, dans la cacophonie, on n'entend plus rien. Mais on est très fier d'avoir la liberté d'expression.
Oui, une question beaucoup plus pragmatique. Est-ce que la production s'est effondrée avec ce qui s'est passé récemment, ou est-ce qu'elle est tombée simplement, ou pas? Des oranges de la
fin. En réalité, il y a l'actualité de la production que je ne me suis pas vraiment attardé dans le film. Il y a les petits prologues au début. Il y a presque plus de production d'oranges de Jaffa en provenance d'Israël ou de Palestine. Les Israéliens ont arraché tous les orangeries parce qu'ils s'étaient trouvés au centre du pays, dans les parties dans lesquelles les terres étaient les plus chères. Et donc, il valait mieux faire pousser des immeubles pour que les juifs de la diaspora puissent acheter des appartements pour venir en vacances. Donc on a arraché, ça c'est en Israël, et on a arraché à Gaza, ça aussi les Israéliens ont arraché à Gaza, des raisons de sécurité évidemment, et donc on les a échangés, ils ne peuvent plus pousser d'oranger, mais ils peuvent pousser des fraisiers, parce que dans les fraises on ne peut pas se cacher. Donc voilà. Et donc il y a la production de fraises de Gaza, il n'y a plus d'orangerie à Gaza, il n'y a presque plus d'orangerie en Israël. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des clémentines, et il y a deux autres variants, il y a des clémentines, des pomelas. Je suis très très mauvais aux agrumes. Dans les débats, on me pose beaucoup de questions sur les agrumes et tout. Moi, je ne connais rien aux agrumes. Mais en tout cas, Israël ne produit presque plus d'agrumes. Par contre, Jaffa est devenu un label que Israël loue. Et donc, les Jaffa, les oranges des Jaffa actuellement qui se trouvent sur le marché, dans la majorité de l'année, sont sud-africaines, avec le label Jaffa. Il y a des Péruviens, et il y a des Argentins, et il y a des clémentines chypriotes. Voilà. Alors, ça, c'est Jaffa est devenu un label, n'est plus un produit israélien. Voilà. Mais, quand même, de chaque orange vendue, Israël touche de l'argent à cause de l'étiquette.
Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que l'Israélien moyen ne se pose aucune question sur son avenir dans la région ? Je comprends qu'il y a une propagande extraordinaire de la part du régime sioniste. Mais enfin, maintenant, il y a une ouverture sur le monde. Personne n'est enfermé totalement chez lui. Comment est-ce que l'Israélien moyen conçoit son existence dans une région dans laquelle il a commis autant et autant et autant d'exactions et qui continue d'en commettre ? Je veux dire, pour son avenir à lui, en dépit de toutes les exactions qu'il commet, enfin qu'on commet en son nom en tout cas.
Moi, j'ai pas de réponse à ça. J'ai pas de réponse. Mais je comprends pas non plus qu'est-ce qu'il pensait. Les Britanniques moyens pendant 300 ans de colonialisme de l'Inde, ou les Français moyens pendant 160 ans de colonialisme de l'Algérie, si vous voulez. Donc, c'est peut-être parce que je rencontre pas des moyens. C'est peut-être ça. Mais, quand on est dedans, on ne voit pas. C'est-à-dire, il y a une chose qu'il faut peut-être être clair, toujours quand on parle d'Israël, la majorité de la population israélienne vit au centre du pays et elle vit très bien, très très bien. C'est-à-dire qu'on y va dans une ville comme Tel Aviv, Gaza est aussi loin de Tel Aviv que de Toulouse, au sommet. C'est-à-dire, quelque part là-bas, il y a un conflit. Tous les conflits israélo-palestiniens pour les habitants de Tel Aviv et de l'affaire étrangère. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas comment il conçoit son avenir. On ne conçoit pas son avenir. C'est-à-dire comment l'Italien conçoit son avenir alors que ça fait 15 ans qu'il vote pour un clown. C'est une question. C'est une question qui se pose. C'est pour ne pas vexer les Français que je parle des Italiens, évidemment. Donc c'est ça la question. Quand on est dedans, c'est la question de la qualité de vie, d'une certaine manière, la qualité de vie. Et cette qualité de vie qui existe pour l'Israélien juif est une qualité de vie qui commence justement avec le fait qu'Israël, et il faut le rappeler toujours, c'est la seule démocratie juive au Moyen-Orient. Il n'y a pas une autre. Donc, et, pardon ? C'est la seule démocratie pour les juifs au Moyen-Orient, il n'y a pas une autre. C'est un fait, c'est même pas, c'est une opinion. Et donc, une des questions, et ça c'est la question importante, c'est comment, et moi je la pose, et j'aime la pose quand je suis devant mes étudiants, comment on va faire pour demander, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire changer l'attitude? Ça veut dire demander à l'Israélien de renoncer à une partie de ses privilèges. Et ça, bah, on sait que c'est difficile. On sait que c'est difficile. Regardez un pays aussi riche et paisible, tout comme la Hollande. Il y a quelques immigrés, il faut renoncer un petit peu à ses privilèges et ça devient un problème. Donc c'est ça. La question n'est pas comment faire comprendre à l'Israélien, mais comment on peut tenir un dialogue dans lequel on dit... Votre sécurité, votre bonheur, votre avenir veut dire renoncer à une partie de vos privilèges. Et ça, c'est la même question qu'on se pose quand on voit des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne partagent pas avec ceux qui n'ont pas. C'est la même chose.
Voilà, vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'on pouvait s'exprimer librement en Israël. Finalement, et comment expliquez-vous le fait qu'Israël intervient, par exemple, au niveau de la justice, du ministère de la justice française, pour faire, essayer de faire punir la liberté d'expression en France? En effet, aujourd'hui, les gens qui s'expriment en faveur du boycott d'Israël, enfin des produits en provenance d'Israël, sont poursuivis par la justice, dans certaines circonstances, à la demande, en général, du consul d'Israël, par exemple, quand il est venu en France, à Toulouse récemment.
Parce que le consul d'Israël a compris qu'en France, c'est un pays dans lequel on dit les mots juifs, tout le monde se cache. C'est tout. Il fait son travail. Il fait bien son travail, lui. Lui, il fait très très bien son travail.
Est-ce qu'il considère qu'en Israël, on a le droit de s'exprimer sur ce sujet?
Mais c'est pas une question d'expression. Mais d'abord, les consuls. Vous n'allez pas me faire défendre les consuls d'Israël. Zubla, c'est la dernière chose que je vais faire, défendre les consuls d'Israël. Mais ça, c'est pas une question israélienne. Ça, c'est une question française. Ça, c'est un problème français. Ça, c'est un problème français. C'est-à-dire que. Israël a très bien compris que s'il y a un pays dans lequel on peut l'intimider, c'est la France, c'est tout. Et ça, c'est un problème français. Ça, c'est un problème français. C'est un problème français qui, en France, on ne peut pas normalement parler d'Israël. En France, on ne peut pas normalement parler de juifs. Et à risque de vous choquer, je dirais, parce que les Israéliens ont très bien compris que la France est un pays antisémite. Et je vais m'expliquer, parce que je ne suis pas d'accord. En quoi? Parce qu'en France, on y croit à la mythologie de vote juif et pouvoir juif, qui sont deux grands thèmes de l'antisémitisme. Et ça, c'est vrai pour tous les partis politiques français. Dès l'extrême droite à l'extrême gauche, on y croit à cette boutade qui est les pouvoirs juifs et les votes juifs. Ça, c'est des racines fortement antisémites. Eh bien, si on joue ça, on le voit très bien quand il y a 17 ministres de la République, 17 ministres de la République qui vont au dîner de CRIF, pourquoi les consuls d'Israël se priveraient de quoi que ce soit? Il y a plus de ministres qui vont au dîner de CRIF qui vont au conseil des ministres. Mais alors pourquoi ils se priveront? Pourquoi ils se priveront? Mais le problème, c'est que c'est les citoyens français qui l'acceptent et qui osent rien dire, parce que les citoyens français ont peur qu'on l'appelle antisémite. Et bien moi je dis là-dessus, quand on n'est pas une fils de pute, on n'a pas peur d'être appelé fils de pute.
D'accord.
Voilà. Pour être vulgaire, ça, mais ça c'est moi.
Mais c'est quand même les organismes pro-israéliens qui répandent cette...
Ben oui, mais les organismes pro-israéliens, il faut comprendre, les organismes pro-israéliens, ils ont un rôle. Non pas défendre la République française, défendre les crimes de l'État d'Israël. Et tous les moyens sont bons. Et puisque c'est possible, vous voyez, en Angleterre, c'est pas possible. En Angleterre, ils peuvent faire ce qu'on expulse les représentants de Mossad de Londres. on a mis de mandat d'arrêt contre Tzipi Livni et contre Barak et les autres. En Angleterre, on peut appeler ouvertement au boycott. Et en Angleterre, et je le dis exprès parce que pour moi ça en fait partie, en Angleterre, on n'interdit pas les voiles non plus. Et ça va ensemble. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que la politique israélienne séduit la politique française. La séparation. C'est quoi les murs? Les murs, c'est en réalité la séparation entre le centre et la périphérie, le centre et la banlieue, entre les blancs et ceux qui ne sont pas, entre les juifs et les arabes. Donc c'est ça. Et ça, c'est une idée qui séduit ici. Donc ça va ensemble, on a compris très bien. Ils font très bien leur boulot, les Israéliens, très très bien leur boulot, là où ça marche. Et en France, ça marche. En France, ça marche. Parce qu'en France, on peut aller, Fillon et Alliot-Marie peuvent mentir et dire qu'on appelle au boycott des produits cachers, et ça passe. Et il y a tous les journalistes qui vont répéter cette connerie. À l'exception peut-être des Politis et Rue 89. C'est tout. Donc, il faut comprendre que l'État et l'humanité. Allez, et l'humanité. Je suis... Excusez-moi, pardon. Et l'humanité. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas une question israélienne. Les rôles de consul d'Israël et de l'ambassade d'Israël, c'est agir pour l'État d'Israël. Ils agissent là où il y a un terrain propice. Et les terrains propices aujourd'hui dans le monde sont les capitoles à Washington, Paris et Berlin.
J'imagine que vous avez projeté ce film aussi tant en Israël qu'en Palestine, et j'aurais aimé savoir comment il avait été accueilli par le public là-bas.
Le film a été vu, pour l'instant, il a été projeté, il y a eu 3 ou 4 projections en Israël. C'est difficile à répondre à la question quelles sont les réactions là-bas. C'est comme si j'irais à Tel Aviv et on me dirait, j'imagine que vous avez projeté le film en France, quelles étaient les réactions là-bas? Qu'est-ce que je vais le dire sur les réactions ce soir? Oui, alors voilà, alors une des choses c'est justement, je peux vous raconter la première projection à Tel Aviv, qui était pour moi un moment à la fois extrêmement joyeux et très triste. J'ai cédé à cette projection à Tel Aviv parce que je voulais absolument que le film sera projeté à Jaffa. Sauf que Jaffa, il n'y a plus une salle dans laquelle on pourrait projeter un film aujourd'hui. Il n'y a pas. Alors que Jaffa était ce que vous avez vu de Jaffa. Donc, Jaffa et rien, il n'y a pas. Et donc, c'est comme ça que j'ai ouvert la projection. Et c'était une projection plutôt émouvante parce que il y avait beaucoup de gens qui apparaissent dans le film. Il y avait les Palestiniens qui sont là, il y avait les Israéliens juifs qui étaient là. Et donc c'était des moments extrêmement émouvants, cette tentative de construction d'une histoire commune. Et ma surprise était que les critiques en dehors, évidemment, l'ennemi habituel, j'ai eu énormément de critiques des milieux dits progressistes, des milieux de gauche. Parce que d'abord, ils n'ont pas aimé le fait qu'il y ait un rappel assez important sur les rôles de la gauche sioniste dans cette histoire. Les kibbutz, l'appel à la préférence nationale, etc., qui est quand même était la politique officielle, que j'ai fait la belle part à la droite, qui sont ces propriétaires terriens et tout, qui travaillaient avec des Arabes et tout, parce que eux, c'était l'argent et c'était pas la couleur qui les intéressait. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a été beaucoup reproché. Mais je viens pas innocent non plus quand je projette mon film en Israël. Donc ils étaient à l'avance, il y avait la presse et tout, qui avertissait déjà de catastrophe que ça va être. Et encore, parce que il y a Ahmadinejad, il y a Avi Mugrabi, il y a Al-Sivan, ouais, ça c'est à peu près l'ennemi le grand ennemi, c'est ça. C'est nous qui sommes la menace de destruction de l'État d'Israël. Et donc voilà, ça c'était une partie des réactions. Et des côtés palestiniens, c'est-à-dire, on avait quelques projections. Le film va commencer à tourner maintenant vraiment dans les territoires. Il tourne en Galilée. Et là, les réactions, ils sont difficiles et dures parce que c'est un film très dur. C'est-à-dire, c'est un film très dur, sourd d'un côté sur la perte de la Palestine. Cette Palestine-là n'existait plus. Voilà, cette Palestine-là n'existe plus. Et là encore, c'est la découverte d'une mémoire effacée. Parce que c'est pas la mémoire aujourd'hui, ce n'est plus la mémoire. C'est pas la mémoire de la Palestine, si vous voulez, qui c'est pas. Il y a peu. Il faut vraiment être de mauvaise foi parfait aujourd'hui pour nier la Nakba, nier l'expulsion des Palestiniens. Mais c'est nier la réalité de la Palestine avant, justement. Je veux dire, aujourd'hui, on est arrivé en phase que même l'ennemi reconnaît qu'il y a eu expulsion. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qui a été expulsé. Qu'est-ce qui a été détruit comme réalité? Et ça, c'est quelque chose que, comme le dit Mustapha Kaba à un moment dans le film, ça, c'est les deux parties ont effacé ces moments de commun. Voilà à peu près ce que je peux vous raconter sur les réactions.
Pour revenir au boycott, pensez-vous que le boycott international, à l'échelle internationale des citoyens, peut avoir un impact sur ce système de colonisation?
La question, c'est qu'est-ce qu'on entend par les boycotts, et qu'est-ce qu'on entend par boycott, et qu'est-ce qu'on entend par modalité de boycott. C'est pas un secret que je suis un supporter de boycott. Ça m'a pris beaucoup d'années rejoindre les boycotts. Je l'ai fait doucement. Je refuse aussi la comparaison avec l'Afrique du Sud et s'appuyer sur l'Afrique du Sud comme un exemple, parce qu'on n'est pas dans l'économie des années 70 et 80. C'est-à-dire la notion d'économie nationale ne veut rien dire. Quand vous me posez la question, mais est-ce que les boycotts internationaux peuvent marcher, etc., économiquement, ma réponse sera claire et simple, c'est non. C'est-à-dire, sauf si nous tous décidons demain arrêter de, par exemple, acheter des ordinateurs parce qu'ils ont tous des Intel à l'intérieur. Et comme vous savez, Intel, c'est l'abréviation de Israel New Technology. Donc, si on décide de ne plus utiliser d'ordinateurs et tout, peut-être. Mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire, on n'est plus dans une économie, c'est pas par l'économie. Mais le boycott, il a un effet qui est extrêmement important, qui est la question de l'image d'Israël. Et c'est ça qu'on voit, c'est-à-dire ces films, c'est sur la construction de l'image. Et les paraîtres est extrêmement important dans cette histoire. Donc il y a la question simple de l'image. C'est-à-dire, ce n'est pas, pour moi, c'est les boycotts, ce n'est pas dire... Demain matin, moi, j'arrête d'acheter Jaffa, ou je n'achète pas les avocats Carmel. Pour moi, les boycotts, c'est quand je suis dans un supermarché où il y a Carmel, j'y vais voir le directeur. Je lui dis, c'est pas bien de voir Carmel. Je parle dans les caisses, je dis, il faut pas que vous passiez le Carmel. Donc, c'est ça, les boycotts. C'est beaucoup plus actif de ce qui était les boycotts dans les années 70 et 80 pour l'Afrique du Sud, adossé au boycott culturel et académique, qui est extrêmement, extrêmement important. Parce que c'est ça la question de l'image. C'est-à-dire, la question, c'est comment arriver à une situation dans laquelle ce n'est pas facile d'être israélien. Et pourquoi ce n'est pas facile? Et quand je parle, je ne fais pas la barrière. C'est-à-dire, je sais que je serai boycotté, je peux le comprendre, je me mets dans les lots, je m'exclus pas, je demande pas avoir une liste des sages face à une liste des méchants et tout. Non, je prends ça d'une façon générale. Mais la question, c'est comment faire peser aux Israéliens les prix de l'occupation. Parce que c'est ça la suite de la réponse sur la question de privilège. Aujourd'hui, l'occupation, aujourd'hui, la force est un privilège. Mais demain, j'y crois pas. À la France, pour moi, c'est la France pour moi est une histoire d'has-been, donc c'est vraiment j'ai donné. Mais quand je pense à l'Angleterre où j'habite aujourd'hui, où je travaille aujourd'hui, je le vois dans ma propre université, on n'accepte plus des étudiants israéliens. On les accepte, mais à une condition, puisqu'on est, on a décidé qu'on est d'un intégrisme absolu sur la question du respect des droits internationaux et des minorités, etc., ben on veut que les Israéliens qui s'inscrivent à notre université garantissent qu'ils n'ont pas participé dans aucune opération militaire dans les territoires occupés. Parce que c'est les droits internationaux. Donc on ne dit pas qu'on discrimine des Israéliens, mais on discrimine des criminels de guerre. Et quand les Israéliens auront des problèmes pour commencer à faire des courses à Oxford Street à Londres, ils pourront toujours venir à Galerie Lafayette. Certes, néanmoins, ils aiment bien acheter à Oxford Street. C'est là que ça va changer. Donc c'est ça pour moi, les boycotts. Les boycotts est une action d'intimidation. C'est-à-dire, c'est exactement ce qui a peur le gouvernement français. C'est de l'intimidation, ce n'est pas une question économique. C'est pas, on va pas détruire l'économie israélienne. L'économie israélienne n'est pas une économie qui a besoin de localité. C'est une économie qui peut se faire à partir d'un ordinateur. C'est-à-dire, c'est de l'high-tech. C'est ça l'économie israélienne. L'économie israélienne, quoi qu'il arrive, c'est l'économie de la guerre, c'est l'économie de la sécurité, c'est les portiques, c'est les caméras de surveillance, c'est les portiques de surveillance, c'est les drones, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup ici de gens qui achètent des drones, qui se disent « Tiens, je me mettrai un petit drone sur mon jardin et tout, j'achète plus de drones israéliens et tout. » Non. Donc, vous voyez ?
J'ai rien sur le film, sur la projection à Tel Aviv. Est-ce que c'est vachement important de savoir, s'il est bien évoqué la question, comment on a fait ça en 48 et pourquoi et si on est prêt à le refaire, la société maintenant, est-ce qu'il pose ce genre de questions? Comment on a fait ça en 48?
Mais comment je grandis en Israël et comment j'étais enfant, adolescent, puis un grand adolescent, on était dans la négation. À partir des années 80, on a commencé à se faire tous les travaux des nouveaux historiens, ce qu'on appelle les nouveaux historiens. Benny Morris, Tom Segev, Ilan Pappé, etc., pour ceux qui connaissent un peu de nous. C'était extrêmement difficile d'être dans la négation. Donc il y a eu la reconnaissance. La reconnaissance du fait. Du fait que, voilà, il y a les modérés disent une partie a été expulsée, une partie a fui, et les extrémistes disent qu'ils étaient expulsés. Mais à partir de là, il y a la question de la prise de position politique, c'est-à-dire, il n'y a pas un chemin direct entre reconnaître un fait et avoir une qualification éthique ou morale par rapport à ce fait qui s'impose par les faits. Et je m'explique. Un des historiens les plus importants israéliens, qui a ouvert, parmi les premiers à travailler sur les archives, c'est Benny Morris. Benny Morris, il n'a jamais nié rien des faits des 48. Dans la naissance de problèmes de réfugiés palestiniens, il en parle clairement dans son nouveau, dans son deuxième livre, qui s'appelle Victime, il parle, c'est lui qui décrit d'une façon extrêmement précise les 17 massacres qui ont eu lieu, pas seulement Dir Yassine, mais les 17 massacres qui ont créé la panique dans les différentes régions. Mais Benny Morris, quand il a été interviewé après, on l'a dit, bah, vous avez dit ça, et qu'est-ce que vous en pensez de ça? Il a dit, bah, ce qui est dommage, c'est que on n'est pas allé jusqu'au bout. Donc vous voyez, il n'y a pas entre les faits, bah, j'imagine qu'on peut trouver, alors on n'est plus dans les mêmes cas de figure, j'imagine qu'on peut trouver jusqu'à aujourd'hui des gens en France qui disent, bah oui, il y a eu torture en Algérie, et tant mieux. Bah, c'est ça, la majorité des cas. Oui, il y a eu expulsion en 48, et tant mieux. C'est ça la position. Alors par rapport à votre deuxième question, est-ce que c'est possible encore? À nouveau, Il y a une partie de la population palestinienne qui le croit fortement. Évidemment, l'ancienne génération y croit et qui vit sous... Il y a une partie de la population israélienne qui rêve de ça. Mais les transferts de population se font historiquement dans les conditions de guerre. Il n'y a pas de transferts de population dans lesquels on décide, dans une situation paisible, on frappe sur le port de gens, on dit « est-ce que vous voulez être expulsé ?» etc. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe dans la guerre, c'est-à-dire ça fait partie de la guerre. L'idéologie qui a mené à l'expulsion de 48, c'est-à-dire l'idée de la pureté territoriale, etc., etc., les dangers démographiques, ça fait partie de la langue politique quotidienne israélienne. Donc les potentiels existent. Sauf que les moyens aujourd'hui sont différents. On le fait par des formes différentes, si vous voulez. Moi, je grandis dans une Israël dans lequel il y avait des ouvrières, il y avait des femmes, je le dis exprès, il y avait des femmes de ménage, il y avait des pompistes, ceux qui travaillaient aux pompes à essence arabes, il y avait des plongeurs arabes, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus. Ils étaient expulsés vers quoi? Vers les territoires occupés. Et cette expulsion, on l'a appelée les accords de Oslo. C'est ça les transferts de population qui étaient. Les rêves de la gauche israélienne, c'est les transferts de la population avec la terre. C'est ça les rêves de la gauche israélienne. C'est-à-dire, c'est quoi les progressistes israéliens? Ils se disent qu'ils auront leur État palestinien comme ça et tout, et on ferme hermétiquement et tout. C'est ça. Jérusalem, il y a d'autres moyens, des modes de si vous voulez, des purifications ethniques. Donc ça existe. On est dans la même logique. Mais la grande différence de ces dernières années, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement israélien a des ministres et très importants dans les plateformes de leur parti, l'expulsion ou les transferts de population est inscrit. Et l'exemple, c'est Lieberman, ministre des Affaires étrangères, que lui, il est parmi les plus malins, parce que lui, ce qu'il propose, c'est l'échange de territoire. Et on va donner aux Palestiniens, on va donner les triangles. Les triangles, c'est cette grande région qui se trouve au sud, si vous voulez, au nord de Tel Aviv, au sud de Nord. C'est Oum El Fahem, Baka, c'est pour les gens qui connaissent. C'est une région extrêmement dense de population arabe israélienne, donc de Palestiniens citoyens de l'État d'Israël. Ça, on va donner dans l'État palestinien. Et nous, on va prendre les colonies. Donc, il est pour un transfert de population sur les mots turc-grec, un échange, si vous voulez, de population. Voilà.
Oui, moi j'aurais aimé savoir d'où peut venir l'espoir d'un changement donc en Palestine entre ce gouvernement israélien, enfin cette opinion publique israélienne qui donne de plus en plus de moyens à ses dirigeants pour intensifier la colonisation et comment aussi intervenir sur le fait que pour le monde entier, le terroriste, c'est toujours l'arabe, c'est jamais le juif. Et on sait très bien que l'État d'Israël s'est construit avec des associations terroristes comme l'Irgun, la Haganah, le groupe Stern et compagnie, qui en fait ont posé des bombes et ont terrifié les Arabes jusqu'à les emmener sur les rives du Jourdain, là où ils sont actuellement. Ils sont dans une prison à ciel ouvert. Disons que ça fait des années que j'assiste à des réunions comme ça, où on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Hier soir encore, j'étais à une réunion, et la question c'était, comment on peut peser, nous les Français, enfin les gens qui s'intéressent à cette question, comment on peut intervenir pour que les choses changent réellement, quoi. Parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est le français finalement qui est prisonnier de sa propre situation d'acceptation de ce système, quoi.
que vous me posez une question difficile, parce que vous commencez par, mais comment on peut avoir l'espoir? Il n'y a pas des magasins à espoir. Donc, et en plus, moi, je ne sais pas fabriquer de l'espoir, moi, je sais fabriquer des films, donc je ne sais pas comment vous répondre sur la question d'espoir. C'est-à-dire, il y a certains de mes amis, quand je dis « alors, c'est quoi l'espoir ?», ils me disent « mais Dieu est grand ». Bon, bah, ça, c'est de l'espoir. Moi, j'ai de l'espoir parce que simplement, je regarde l'histoire de l'histoire. Et l'histoire de l'histoire, c'est si on aurait été assis, je ne sais pas, à un certain moment ici, on aurait dit, mais comment donner d'espoir aux Algériens, etc. Vous aurez répondu comme moi. Ou si on aurait posé la question, oui, mais quand même, les pauvres Allemands de l'Est, etc. Est-ce que les murs vont tomber un jour? Laisse tomber, tu rêves. Donc, l'histoire de l'histoire nous raconte que des choses changent. Donc ça, si vous voulez de l'espoir, ben voilà. Ça, qui aurait cru qu'un jour, un président français se baladera main dans la main avec un président allemand, par exemple. Si vous voulez comme ça des images d'Épinal, il y a quelques-uns. Hein, qui aurait cru qu'il y aurait un président noir en Amérique, et tout ça. Je peux vous faire TF1 aussi, si vous voulez. Et donc, ça c'est l'espoir. Moi, je sais pas. Moi, je connais pas l'espoir rien. Moi, je connais à faire des films. Je connais à faire à la lutte politique. Et c'est une question. Ce n'est pas une question de peser. Est-ce que ça va aboutir ou ça ne va pas aboutir? C'est une question de dignité. Bah, c'est comme ça. Moi, c'est mon cheval de bataille. C'est comme ça. Ça marche. Hein. Moi, j'ai fait un film il y a en 93 avec un super monsieur qui est mort depuis, qui s'appelait Ishayahu Leibovitch, le professeur, avec qui j'ai interviewé déjà dans les années 80, au début des 80, fin des années 80, dans un film à moi qui s'appelle Iskro, les esclaves de la mémoire. Et il me dit, à un moment, il cite comme ça Voltaire, il dit « L'histoire et la chronie est un amas de crimes, folies et catastrophes commis par l'homme. » Ça, c'est Voltaire. Alors, il me dit, Voltaire a dit la vérité, mais pas toute la vérité. Parce que l'histoire, c'est aussi l'histoire de la lutte de l'homme contre ses crimes, contre ses folies et contre ses catastrophes. Donc, voilà pour le volet histoire. Mais maintenant, vous posez une autre question qui est la question du terrorisme, et là, je voudrais vous corriger. Parce que, d'abord dire, ouais, toujours l'arabe est terroriste, les juifs et tout. Moi, les juifs, je voudrais les laisser tranquilles. Moi, je vais parler des Israéliens juifs et des sionistes. Pauvres juifs, je les laisse tranquilles, vraiment. Hein, ils n'ont rien demandé et ils ne méritent pas qu'un État comme l'État d'Israël parle à leur nom. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que justement, la figure du juif et de l'arabe est une figure échangeable et remplaçable. Parce que la figure qui a terrorisé l'Europe et qui était la terreur biologique de l'Europe, qui a infecté l'Europe, était le juif, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et bien là, on a laissé les juifs et on s'est mis aux arabes. Donc c'est simplement, ça montre que, Dieu merci, il y a une continuité européenne. C'est tout. Ça c'est une chose, pour être clair sur ces points-là. Oui, non, mais après, vous faites avec ce que je dis ce que vous voulez. Donc, ça pour moi, c'est un point important. C'est-à-dire, moi, je ne vois pas, moi, quand j'entends aujourd'hui les discours qu'il y a aujourd'hui en Occident sur l'arabe, ou la figure musulmane, moi, je regarde toujours, j'ai devant mon ordinateur, j'ai la photo de mes arrière-grands-parents. Il y a quelques jours, il y a une amie qui est rentrée, elle a dit, mais pourquoi tu as des photos des talibans dans ton bureau? Parce que, oui, mes arrière-grands-parents avaient des gueules de talibans. Et tout. Donc, je vis dans cette conscience-là. Je vis dans cette conscience-là. Bah, je suis pas musulman, il se trouve que je suis un juif, et bah voilà, je suis en 2010 et pas en 34. Maintenant, il y a une autre chose, mais c'est qu'est-ce que nous, on peut faire? Qu'est-ce que nous, on peut faire? La première chose qu'on peut faire, c'est justement, c'est se méfier des mots. Utiliser les mots précis. C'est-à-dire, la conduite de l'État d'Israël et de mouvement sioniste est assez dégoûtante pour n'ait pas besoin d'ajouter même un petit peu dessus. C'est-à-dire vraiment la décrire telle qu'elle. C'est-à-dire pas besoin de la surenchère, pas besoin, ça n'a pas besoin d'être les pires des crimes. C'est un crime comme ça. Oui, il y a d'autres régimes criminels dans le monde. Et donc, déjà, les langages, ça c'est une chose, et pour moi la chose qui est extrêmement importante, c'est refuser l'idée de parler en termes d'exception. Moi je voudrais, moi je rêve, comme ça vous parlez d'espoir, moi je rêve à un moment dans lequel Israël, et en l'occurrence chez les juifs aussi, en diaspora, on les traite égaux, pas exceptionnels. Pas d'exception. Parce que justement, l'état d'exception, c'est quelque chose qui s'inverse. Hein? Un jour, l'exception, c'est les traitements spéciaux, c'est les chambres à gaz. Un jour, les traitements spéciaux, c'est vous pouvez bafouer les droits internationaux comme vous voulez. C'est ça, les traitements spéciaux. C'est ça, les refus de considérer, de nous considérer égaux, normal. C'est un état comme les autres. Vous faites chier, ben voilà, ben c'est comme ça. Et un État comme les autres, ça veut dire avec ses enjeux. Parce que la Chine aussi est un État comme les autres. Israël n'est pas le seul pays qui bafoue le droit international. Sauf qu'Israël, depuis le début, elle est dans l'exception. Israël, c'est le seul pays qui a été établi par décision de droit international, et donc par conséquence, il a une relation extrêmement compliqué avec les droits internationaux. Parce que chaque fois qu'Israël refuse d'appliquer les droits internationaux, met sa propre légitimité en cause. Puisque c'est un pays qui a été établi par les droits internationaux. Et donc, qu'est-ce que nous, on peut faire, nous, ici? Ben, il y a le petit boycott. Ça, c'est pas rien. Ça, c'est beaucoup. Mais aussi, être assis sûr de soi, d'être clean de ça pour pouvoir parler normalement et ne pas se laisser intimider. Et je suis persuadé, je le crois, si on va refuser cette intimidation, parce qu'on sera assez sûr, non, c'est un moyen d'affaiblir à la fois les sionistes et l'État d'Israël. J'ai répondu plus ou moins.
Par rapport au film, il y a une question que je me demandais. Vous disiez que ce que vous appelez les juifs de droite, là, ils se différencient dans le film, ils se différencient des sionistes. Et en fait, qui ils sont? D'où ils viennent? Quelle est un peu leur histoire? Parce qu'on ne le voit pas du tout apparaître dans le film.
Mais vous savez, si on reprend la charte de l'Organisation de libération de la Palestine, celle qu'aujourd'hui même les Palestiniens la considèrent caduque, mais déjà, à partir de quel moment on considère colonisation en Palestine? Tous les juifs qui sont arrivés avant 1917, avant la déclaration de Balfour, qui est la déclaration du ministre des colonies anglais, qui dit, nous reconnaissons les droits à un foyer national juif, donc ceci c'est, si vous voulez, les pré-colons, les pré-sionistes. Certes, il n'y a presque pas de juifs qui sont restés pendant une longue période en Palestine. Il y avait très très peu, il y avait quelques communautés pieuses qui sont restées en Palestine depuis les temps. Il y a ceux qui sont arrivés un petit peu par un parcours comme ça, d'immigration, de raisons de travail, etc. Mais dès la région, en étant sous l'Empire ottoman. Mais il y a à la fin du XIXe siècle, dans ces grands mouvements nationaux européens, il y a des gens qui se déplacent, des juifs qui se déplacent. Et une partie vient en Palestine. Mais vient en Palestine, non pas du tout dans une idée nationale, dans une idée d'un foyer national, ou peut-être dans une idée des minorités nationales, pas dans une idée ni de construire un État, ni de sionisme, tout, par les liens. C'est-à-dire, ça aussi, nier totalement les liens qui existe comme ça entre des juifs, je dis des juifs et pas tous les juifs, des juifs et cette terre qui s'appelle la Palestine et tout, ça serait exagéré. Évidemment qu'il y a un certain lien mythologique, mythique, culturel, religieux, Dieu sait quoi. Donc, il y a des gens qui sont arrivés, il y a cela, et il y a aussi l'immigration qui arrive en 1905 après la révolution déchue, la révolution d'octobre 1905 et 6, donc qui arrive en Palestine. Après, une partie va devenir sioniste. Donc, c'est là, ces gens de droite qui sont arrivés, c'est des gens qui sont arrivés, si vous voulez, fin du 19e siècle, jusque 1910, grosso modo, plutôt 1906. Et après vont arriver la vague sioniste. C'est ça que certains, dans certains livres, on appelle les yeshuvs. Il faut se rappeler que le baron Rothschild a acheté des terres. Pour constituer des communautés agricoles. Mais qui étaient en dehors de l'idée sioniste. Oui, ils étaient un retour de juifs à la terre, etc., etc., des mythologies de ce genre, mais ils étaient en dehors du sionisme. Les grands moments de sionisme, ça aussi, il faut à chaque fois le rappeler. Le sionisme, il a un petit coup de puce en 1917 avec la déclaration Balfour, et après ça va rester minoritaire jusqu'au lendemain de la guerre, la grande guerre. La deuxième guerre. Il va rester minoritaire. Le sionisme va devenir ce qu'il est après guerre. Voilà, c'est les yeshuvs.
Je voudrais juste commencer par une remarque, c'est pas une question, mais personnellement je suis pas d'accord avec l'idée qu'Israël est une création du droit international. C'est une création d'une décision de l'ONU qui ne dit pas toujours nécessairement le droit international, et je pense que la contre-proposition, celle qui était faite par la partie arabe de la création d'un État arabe avec des droits pour la minorité juive, aurait été certainement plus conforme au droit international, à mon avis. Mais bon,
là-dessus, c'est un fait dans lequel je ne suis pas d'accord. Vous pouvez dire que le droit n'est pas juste. Moi, je n'ai pas dit que c'est un droit juste. Je dis, c'est un droit. C'est le droit international. Le droit international se prononce à travers la décision internationale. Les votes des Nations Unies, qui est un vote, qui en lui-même est un vote illégal. Puisqu'il y va, les votes va à l'encontre de la charte des Nations Unies, puisqu'on ne peut pas attribuer une terre d'un peuple, on ne peut pas attribuer terre indigène à un peuple étranger sans l'accord d'un peuple indigène. Okay, alors on peut parler de l'indigénat dans ces cas-là. En 1947, le 29 novembre 1947, il y a deux propositions, vous l'avez dit, qui sont mises sur la table. Une proposition que c'est le Pakistan qui va le mettre, l'ambassadeur de Pakistan, l'idée d'État fédéral, qui va même pas être amené au vote définitif, et la partition de la Palestine entre deux États, État juif et État arabe. Et au moment que ça a été voté, résolution 181 fait office de droit international, comme 194, qui est voté pas longtemps après, qui est celle qui donne les droits au retour aux Palestiniens, aux réfugiés palestiniens, ou, et compensation, ces droits internationaux. Et pourquoi j'insiste? Parce que si on n'est pas d'accord qu'Israël est la création, si 181 n'est pas droit international, 194 ne l'est pas non plus. C'est ça qui est important. Oui, c'est le droit international qui a établi l'État d'Israël. Il n'y a aucun autre État dans le monde qui a été, que sa constitution a été votée aux Nations Unies. Ça n'existait pas. Acceptation dans les Nations Unies, oui. Voter, décider qu'il y a un État. Et moi, j'insiste dessus parce que je pense que c'est un point extrêmement important, puisqu'on nous dit, à ceux qui militent, on nous dit, ouais, vous vous intéressez toujours à Israël, et pourquoi vous ne parlez pas des Darfour, et parlez pas des Sri Lanka, et vous ne parlez pas de ci, et vous ne parlez pas de ça. La réponse est parce qu'il y a un seul État qui a été établi par les droits internationaux Et ces droits-là, et cet État-là, quand il bafoue les droits internationaux, il met en cause sa propre légitimité. Légitimité, étymologiquement, dans le sens étymologique, son logos, c'est-à-dire son droit.
Je voulais venir, d'accord. Je voulais venir à une question. Dans le film, on voit ces séquences extraordinaires de. Je pense que c'était qui accompagnait les bandes d'actualité au cinéma à l'époque, dans lesquelles on montre que le retour des Juifs dans le pays d'Abraham, sur cette terre qui a été négligée, laissée à l'abandon pendant si longtemps, et par derrière on voit des images de désert très floues d'ailleurs, et éventuellement un ou deux chameaux. Et puis ensuite, ces jeunes costauds, décidés, le regard clair, etc., qui sont là pour faire refleurir le désert. C'était une expression qui s'utilisait beaucoup à l'époque. Et c'est vrai que, moi je m'en souviens, mais je veux dire, c'est vrai que, à l'époque, il se dégageait dans l'opinion une opinion, une impression positive, d'accord, construite, comme on l'a bien vu, mais une opinion positive d'Israël sur des bases qui, à l'heure actuelle, je dis pas qu'elles ont complètement disparu du discours, mais elles ont quand même pris un sacré coup de vieux. Et pour certaines ont été même carrément complètement éliminées du discours. Alors ma question c'est, qu'est-ce que, à l'heure actuelle, si je suis au ministère des Affaires étrangères israélien, quels sont les ressorts qu'Israël utilise pour se construire ou essayer de se construire auprès des générations actuelles une image positive?
C'est une excellente question, merci beaucoup. Une des choses sur ces archives à insister, c'est que il y a une quantité énorme dans le film des archives qui ne sont pas du tout des archives israéliens, juifs ou sionistes. C'est-à-dire, et c'est pour ça que j'ai gardé les voies d'origine et les logos. C'est-à-dire, l'archive Pathé, qu'on voit, c'est Pathé. C'est Pathé qui parle des tribus arabes, etc. Et donc, il faut. Je fais simplement la préambule. Évidemment qu'Israël et la constitution d'État d'Israël et les sionismes, ces sionismes pionniers, s'inscrit dans une vision générale. C'est-à-dire 1947, c'est quand même l'année de la partition de l'Inde. 1948, c'est le moment de la constitution de la République sud-africaine, donc de l'apartheid. C'est un État qui est dans son temps. Il est dans son vrai temps, c'est-à-dire il est de MPS. Donc, il est ni avant-garde, ni arrière. Il est là avec son imagerie. Ah, donc, il y a combien de gens jusqu'à aujourd'hui, y compris dans le mouvement d'extrême-gauche français, plutôt pro-palestinien et tout, disent oui, mais les kibbutz, c'est la saloperie discriminatoire par excellence. Les kibbutz, il faut se rappeler que les kibbutz n'acceptaient ni des juifs séfarades, ni des arabes. C'est ça les kibbutz. Les kibbutz, c'est des colonies blanches, c'est ça les kibbutz. Et jusqu'à aujourd'hui, j'entends par des copains et tout, oui, mais les kibbutz, l'égalité. Oui, l'égalité entre blancs, ça c'est sûr. Donc, ça c'est important. Pourquoi je fais cette préambule? Parce que pour comprendre que les sionismes, c'est ça qui m'a intéressé beaucoup quand j'ai travaillé sur ces archives, les sionismes n'est pas une chose juive. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, c'est du protestantisme injecté sur le judaïsme et adopté en tant que tel par les laïcs, par des laïcs. Donc, ou des séculaires, comme vous voulez, ou des non-croyants. En France, c'est vachement compliqué tout ça. Et donc, maintenant vous dites, mais quel est les ressorts actuels puisqu'on ne peut plus jouer cette propagande-là? Ben alors, c'est à différents niveaux. C'est vraiment à différents niveaux, c'est plus régionalisé, c'est pas les mêmes choses. Une des choses, c'est que nous, on a compris les Arabes et les musulmans bien avant que vous. Donc ça, c'est un ressort aujourd'hui de propagande qui marche très très bien. Vous, vous plaignez que vous avez beaucoup d'Arabes. Nous, ça fait longtemps qu'on a beaucoup d'Arabes, et on vous a dit. Donc ça marche extrêmement bien, la grande connivence des racistes anti-arabes. Ça se vend bien actuellement. La deuxième chose qui marche extrêmement bien, c'est le fait que aujourd'hui, Israël ne s'intéresse plus aux populations civiles. On discute au niveau du gouvernement, et ça, si on lit la presse israélienne, on le voit, les déclarations, ils disent oui, les peuples européens sont anti-israéliens, mais heureusement que leurs politiques sont pro. Ce qui est un truc important, c'est un truc extrêmement important. On le sait que les populations sont plutôt ulcérées de la politique israélienne après Gaza, après Liban, etc. Mais les gouvernements le sont. Donc Israël ne s'intéresse plus à ces niveaux-là. Mais il y a quand même certaines niches de propagande. Alors, une grande niche de propagande que je connais bien, et c'est de ce que je veux parler, c'est le cinéma israélien. Le cinéma israélien aujourd'hui joue un rôle primordial en étant la vitrine du cinéma israélien, la vitrine de l'État d'Israël. Et ceux qui sont dans la vitrine sont les réalisateurs dits de gauche. Alors, je ne vais pas cracher sur des collègues, sauf certains, mais je vais citer certains titres de films, si vous me permettez. Prenez un film, par exemple, comme Lebanon. Voilà. On va prendre Valse avec Bachir. Valse avec Bachir et tout. Incontestablement, Harry Folman et moi, on est collègues, on enseigne dans les mêmes facs. Tout ce que je vais dire maintenant, je l'ai dit à lui. Donc, c'est un film qui est formidable sur le plan technologique, sur le plan cinématographique. C'est un plaisir pur et tout. Mais si on regarde, qu'est-ce que c'est ce film? Si on regarde. Alors, beaucoup ont parlé de cette chose au fond. Les vraies victimes de la guerre du Liban, c'est les soldats israéliens. N'est-ce pas? C'est eux qui sont traumatisés. Et en plus, ils sont traumatisés et ils surmontent le traumatisme en faisant du cinéma. C'est-à-dire quel courage en plus, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un... Mais plus que ça, si on regarde la grande révélation de Valse avec Bachir, Harry... Les réalisateurs et toute sa bande, ils sont là en 1982, le 16 septembre 1982, lors du massacre de Sabra et Shatila, sur les barrages, il nous le dit. Et il voit des images, il voit quelque chose. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit les images que nous avons tous vues à la télévision. C'est-à-dire, pour ça, tu nous as fait tous les films et tu étais à Sabra et Shatila pour qu'on voit les images qu'on a vues à la télévision. Mais qu'est-ce que tu as vu, toi? Eh bien, ces films-là, c'est un film sur la négation. Ça, c'est un exemple. C'est-à-dire, au fond, tous les films, c'est tous les parcours, je vais essayer de retrouver ces images qui montaient, etc., et qu'on fait. Et, quelques jours après que le film sort, ou quelques semaines, il reçoit les Emmy, ou les Globes, ou un de ces grands prix américains, et il se trouve qu'on est exactement au moment qu'Israël attaque Gaza. Au Liban, je ne me souviens plus, non, au Gaza plutôt. Et il est là, à New York, en train de recevoir son prix, il ne dit rien. Et ça, c'est le cas de Harry Folman avec Valse avec Bachir, des réalisateurs de Tu marcheras sur l'eau, des réalisateurs de Kadosh, etc. Donc je peux faire la liste, et je mets de côté certains d'autres que j'admire, parce que justement, ils ne séparent pas leur cinéma du fait qu'ils ont non pas la liberté de parole, mais les devoirs de la parole. Avi Mugabe en fait partie. Donc le cinéma israélien est un cinéma qui ramasse, qui est les paravents, qui veut dire deux grandes choses, grosso modo. On est des démocrates, puisqu'on peut faire des films contre, on finance des films contre nous-mêmes, donc on est des grands démocrates. Ces films, c'est une industrie qui a été montée de toutes pièces. On regarde les prix qui ont été récemment, Venise, Berlin, les prix des courts-métrages à Cannes, etc., etc. Tous les festivals, tout ça, c'est des coûts de promotion et de marketing de l'ambassade d'Israël, partout, et des ministères des Affaires étrangères de Lieberman, hein, qui en va. Et ça, c'est les films comme Liban. Liban, Lebanon, est un film dans lequel, voilà, c'est une bande de gens qui font la guerre sans ennemis. Il n'y a pas d'ennemis. On fait la guerre, mais pourquoi? À qui? Rien. On ne voit rien. Alors, c'est ça c'est qu'on véhicule aujourd'hui la propagande, c'est on est une démocratie. C'est ça qui est important. On est en démocratie et donc tout ce qu'on fait sont des décisions démocratiques. C'est ça, ça c'est la base fondamentale de la propagande. Et les cinémas en jouent un rôle extrêmement important. Avec ces films qui sont des grands films à succès, Tu marcheras sur l'eau aussi, si on l'analyse, ils marchent tous sur grosso modo le même ressort. L'Israélien, c'est quelqu'un qui, avant de tuer, il est torturé. Après de tuer, il est encore plus torturé. Et la plus grande victime, c'est l'Israélien lui-même et tout. Et on ne pardonnera jamais aux Arabes de nous avoir obligés à faire ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est une citation de Golda Meir.
En même temps, ce n'est pas si simple.
Pardon ?
En même temps, je pense que c'est pas si simple.
Non.
Parce qu'on voit les réactions par rapport à ces films-là, par rapport à Lebanon, etc. Parce que Lebanon, qu'est-ce que ça montre aussi ? Ça montre un jeune con qui a rien compris, qui sait pas pourquoi il se bat, qui sait pas dans quelle guerre il se retrouve, il comprend rien. Qu'est-ce que c'est ces milices ? Qu'est-ce que c'est ces Syriens qui sont là ? Il comprend rien. C'est-à-dire qu'on a surtout l'impression, moi quand j'en sors de films comme Lebanon, je me dis, mais ils patochent complètement dans la semoule, les Israéliens. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus d'où ils en sont. C'est-à-dire que mine de rien, en croyant manipuler la démocratie, ils produisent en même temps des choses qui se retournent quelque part. Enfin, moi je l'ai ressenti comme ça au niveau des réactions.
Mais ça c'est formidable. Les choses, c'est que ça... Ça, c'est Autopia avec le public d'Autopia.
Ils vendraient, tu sais, on dit, on vendrait la...
Non, c'est important.
Ils tendront la corde pour les pendre. C'est un petit peu ça, quelque part.
Oui et non, parce que imaginez-vous, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est Lebanon quand il sort aux États-Unis, quand il sort au Canada.
C'est vrai que nous, on fait tout un travail.
Et il faut voir une autre chose dans ce film. Il y a des choses qui sont les sous-textes dans ce film. Quand tu marcheras sur l'eau, au Babel... C'est des grands films à succès israéliens qui ont marché. C'est un Israël que nous, on ne connaît pas, qu'on voit. C'est un Israël plutôt blanche, plutôt sympathique, plutôt gentil, plutôt con. Mais ce n'est pas vrai. Les soldats israéliens, ils savent très bien pourquoi ils se battent. D'ailleurs, on le voit quand les soldats israéliens laissent sur les murs ce qu'ils écrivent. On le voit lors de l'invasion. C'est justement une vision, c'est une vision, certes, qui met en critique, parce que c'est ça les ressources. C'est pour ça que j'ai répondu ça dans le cadre de la propagande. Moi, je pense que ça ne va pas durer. Mais c'est ça la propagande. La propagande, c'est l'utilisation aujourd'hui du cinéma, des théâtres, de la littérature, c'est-à-dire vraiment la culture, qu'ils sont les écrivains qui sont promus par l'État d'Israël, qui a été amené par Peres au Salon des Livres quand Israël était à l'honneur. C'était pas Shamir, il y a un grand écrivain israélien, Moshe Shamir, qui est peut-être un des plus grands écrivains israéliens inconnus à l'étranger. Inconnu à l'étranger, pourquoi ? Parce qu'il est de droite. Mais Grossman, Aleph Bet Yoshua, Amos Oz, ça c'est les grands écrivains. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des prises politiques courageuses. Ils disent « on est pour la paix ». C'est quand même courageux, ça. Donc, et ça, c'est les mêmes choses avec Yossi Sider, Eitan Fuchs, Ari Folman, Amos Gitai. La chose, c'est que l'utilisation de l'espace public, c'est des gens qui n'ont jamais aucune, ils ne se prononcent pas sur la position politique, alors qu'eux, ils ont, justement, non pas la liberté d'expression, mais ils ont un espace d'expression beaucoup plus important que nous, les quelques documentaristes, petits cinéastes qui font 2-3 000 entrées quand on a de très très grands succès, alors qu'eux, c'est-à-dire, on lit un interview avec, c'était Sider, je ne sais pas qui a fait déjà, Beaufort, c'était Sider et Lebanon, je ne me souviens plus, réalisateur. On lit l'interview qu'il a donnée à Libé, on ne sait pas s'il a réalisé un Mickey, un porno ou un film de guerre. Il est là, tout, moi politique, je ne parle pas, moi je fais du cinéma, etc. Et tout. C'est de ça que je parle, c'est ça qui va avec. Le fait que les films distillent après autre chose, je suis d'accord. Évidemment que dans une lecture, moi ce que je lis dans ce cinéma israélien à succès depuis de dernières années, je lis une très grande perversité. j'ai dit quelque chose d'extrêmement pervers dans ce cinéma. C'est-à-dire, vraiment, il y avait ce film qui sur deux filles soldates, les pauvres sont là, et ça, elles font le service militaire, elles sont obligées à demander les papiers aux Arabes à Jérusalem, et tout. Si, il était dans les salles, et tout. Et c'est pervers. C'est pervers. Et ce côté, on est des cons. Non, on n'est pas du tout des cons. L'Israélien, il sait très très bien pourquoi il se bat. Et quand un Israélien, il y va dans les chars ou il y va dans les commandos, c'est parce qu'il a demandé. Parce que moi, quand j'étais à l'école, les garçons, évidemment, on avait la possibilité à 16 à 17 ans, on disait, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux être les commandos, les hommes grenouilles, pilotes des chasses, conduire un char et tout, à 16 ans. À 16 ans, c'est mieux que de l'ego, quoi. C'est formidable. Et c'est ça. Donc, moi, cette position, l'Israélien con qui se bat contre, il sait pas, machin, truc et tout, c'est du mensonge, c'est des révisions. Ça, pour moi, c'est des négations. C'est de la négation. Le soldat israélien est un soldat idéologique. Parce qu'il a été élevé là-dessus. Non pas parce qu'il a choisi cette idéologie, parce que nous étions élevés là-dessus. Et c'est un travail extrêmement difficile à se libérer de ça, à se décoloniser de ça. C'est pénible.
Encore plus pervers, c'est-à-dire que le gouvernement de droite laisserait ce qui reste de la gauche israélienne signer ses épitaphes par des films et des positions pacifistes qui feraient bien rire gouvernement israélien.
Mais écoutez, mais de quelle gauche israélienne nous parlons? Ben voilà. La gauche israélienne est au pouvoir. Barak est ministre de la Défense et Peres est président. La gauche israélienne est au pouvoir.
C'est comme les socialistes au pouvoir, d'accord.
Non, c'est-à-dire, justement, une des choses qui m'a intéressé dans ces films, que ces notions de gauche et de droite ne veulent rien dire, ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. C'est vrai, ça ne veut pas dire non plus ici, encore, et tout, mais en Israël, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, chaque fois, et tout, il y a une bombe qui soi-disant tombe non pas là où elle devait tomber et tue une famille, démolit un bâtiment de l'ONU et tout, bah on envoie Peres. On envoie Peres. Puisque c'est le camp de la paix. Pas C-O-N. Camp de la paix, C-A-M-P. Voilà. Voilà, c'est Peres. Peres qu'on l'envoie et tout, il est là. Désolé, pardon. C'est moi et tout. Moi j'ai une théorie là-dessus. Moi je crois que Peres c'est comme Saddam. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs. Donc, il est maintenu comme ça en vie que pour ça, pour pouvoir aller demander pardon en chancellerie internationale. Donc, parce que c'est pas possible. Moi, je suis né, il y avait Peres. Je veux mourir, il va avoir Peres.
Oui, je vous remercie de ce que vous avez dit sur Danse avec Bachir, parce que moi je l'avais senti immédiatement, que c'était 100% pervers, et qu'effectivement les pauvres Israéliens étaient là, c'est pas leur faute, c'était ces salauds de milices de droite de Libanais qui avaient fait le boulot. Mais en fait c'était hyper, c'est un film 100% pervers. Enfin, je l'ai senti et je me suis trouvé isolé, mes chers amis qui disent
non. Pourtant, Vals avec Bachir, je l'ai pris parce que c'est le plus connu. Je ne trouve pas qu'il est le plus de pervers. Moi, je pense qu'il y a des textes beaucoup plus pervers. Je pense que Vals avec Bachir, à un moment, avec les temps, là, il y a une vague. Il y a la vague de cinéma israélien. C'est un moment, c'est venu, ça va partir. C'est le résultat d'un investissement qui a été fait pendant 15 ans de tous les gouvernements. Peres l'a dit au Festival de Haïfa. Au Festival de Haïfa, il y a quelques mois, c'était en novembre, Peres a dit, les Américains ont bien compris que pour pouvoir avoir, pour être une puissance internationale, il faut diviser le pouvoir entre le Capitole et Hollywood. Il a dit à l'ouverture de Festival de Haïfa, il dit, nous devons, Peres, investir beaucoup plus dans le cinéma israélien. Donc c'est une politique extrêmement calculée, qui était les cinémas israéliens avec des grandes subventions, beaucoup de promotions, la même chose pour la littérature et la danse contemporaine. Si on vient avec des sujets politiques, on a plus de chances d'avoir des subventions. Il vaut mieux avoir un peu de barrage, c'est bon, les barrages c'est bon, mur c'est excellent, et tout, donc il faut tout ça, et tout, par des ingrédients. Et donc moi je trouve pas que Valse avec Bachir c'est parmi les plus pervers, moi, c'est pour être méchant avec mes collègues, je trouve que par exemple un film comme Kadosh, pour ceux qui l'ont vu, ça c'est un film pervers. Ça, c'est un film extrêmement pervers parce que justement, il n'a pas. C'est un film sans sous-texte. Le film d'Amos Gitai sur la communauté juive orthodoxe à Jérusalem, dans lequel, en réalité, c'est des juifs orthodoxes extrêmement durs, intégristes, fondamentalistes, etc., etc. Il se trouve qu'il a pris des acteurs arabes pour les jouer. Ils ont des gueules d'arabes en plus, donc c'est des juifs arabes. Donc ça marche très très bien, ça se vend bien ça à l'étranger. Et les mêmes choses, tu marcheras sur l'eau, ce qui commence avec une scène d'assassinat par les Mossad d'un responsable de Hamas, et ces mêmes personnes qui a fait cet assassinat, après on leur donne une autre mission pour aller assassiner un vieux nazi à Berlin, mais là il a des tas d'âmes. Ah non, un vieux nazi c'est compliqué, un jeune Hamas c'est facile, un vieux nazi c'est compliqué. Donc voilà, ça je trouve des films vraiment, vraiment pervers. Mais je trouve que c'est extrêmement intéressant cette utilisation de cinéma, on le voit. Combien de festivals, les forums d'images, hommage à Tel Aviv, festival de films israéliens, etc. Voilà. Et ça, c'est vrai pour la littérature, comme je dis, c'est vrai aussi pour la littérature.
Si.
Obama, est-ce que la politique est... des États-Unis par rapport donc à Israël.
Moi je pense qu'il y a une confusion entre ami d'Israël et ennemi d'Israël. Pour moi, Obama, Merkel, Sarkozy, Berlusconi, c'est l'ennemi d'Israël. Peut-être c'est les amis d'Israël, si vous voulez, l'ennemi des Israéliens. C'est-à-dire, je pourrais répondre par une phrase que j'ai appris en arrivant en France, qui aime bien châtie bien, et conclure que on nous déteste. Ça c'est un, puisque personne ne veut châtier Israël, donc on nous déteste. Ou que simplement on laisse les gouvernements israéliens sans distinction mener les Israéliens, les Juifs israéliens, et dans la foulée les Juifs, vers la vraie catastrophe. C'est ça qui se passe. Et ça c'est un petit peu la prophétie de Parano. Hein, on veut me détruire, c'est comme ça que ça va se terminer. Donc les Parano vont à la fin avoir raison. Les Israéliens vont avoir raison à la fin. Parce que justement, vous voyez, c'est un jeu des limites. On a essayé là, sur un espace de 5 ans, on peut dire sur 10 ans, mais seulement sur les années là qui viennent, entre l'attaque sur les Libans, les incursions, les années de bouclage de Gaza, les attaques sur Gaza, et maintenant la construction, c'est pas qu'on a arrêté une seconde de construire, mais maintenant on essaye de dire, on va voir et tout. Vient le vice-président américain, on annonce des constructions. Netanyahu doit rentrer à un rendez-vous avec Obama, une demi-heure avant, on annonce 20 logements à l'hôtel Schaeffer de Jérusalem-Est. Donc on essaye, et on voit que ça marche. Et donc, moi, je conclue que oui, les Américains, d'abord, il y a une continuité politique, Obama, tout pour l'instant. Il faut se rappeler quand même, le seul président américain qui a osé faire des sanctions et de forcer les Israéliens à quoi que ce soit un tout petit peu, c'était les pères Bush. Les pères Bush. Ça, c'était... un moment un petit peu exceptionnel, le moment qu'il a gelé les prêts de 10 milliards de dollars aux Israéliens à cause des constructions dans les colonies. Mais sinon, bah, il nous laisse. Moi, je trouve que c'est les vrais abandons de la communauté internationale, c'est ça. C'est, d'une certaine manière, abandonner les Israéliens à la folie de leur gouvernement, de leur propre idéologie, des mythologies qui traînent. Si vous voulez, pour conclure, je ne suis pas assez raciste pour être impressionné par un président américain, même s'il est noir.
Je voulais, comme on n'a pas prononcé une seule fois le mot de gouvernement ou de peuple arabe dans cette soirée, je pense que si de ce côté-là on pouvait prendre 10% de ce que vous dites, être clean, être précis, je pense que ça aurait aussi un effet, parce que ce sont parfois les dérapages, les mauvaises analyses, être précis, être vrai et être percutant, peut-être.
Mais si vous voulez, moi, il suffit de m'allumer un petit peu sur les pays arabes et sur les peuples arabes. Mais là, c'est la même chose. Je pourrais dire la continuation de ce que je viens de dire. C'est-à-dire avoir laissé depuis la soi-disant décolonisation s'installer des régimes dictatoriaux, qui n'ont strictement aucun respect ni aux droits de citoyens, aux droits humains, etc., etc. Dans cette région, c'est une catastrophe pour les peuples, c'est une catastrophe pour le peuple, et en ricochet, ça va être une catastrophe pour l'Occident lui-même. Mais qu'est-ce que sont les États modérés? Où est-ce que j'ai lu très récemment quelqu'un qui dit, ah oui, j'ai lu l'interview de Baradaï, qui était le président de l'IEA, de l'Agence des Nations Unies nucléaires. Et il dit oui, on dit l'Iran. Mais au moins en Iran, il y a des élections. En Égypte, en Syrie, en Maroc, etc., c'est quoi ces élections 99,9%? C'est-à-dire, c'est ridicule. Mais ça, on a laissé s'installer. Et ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est une catastrophe terrible pour le peuple eux-mêmes. C'est-à-dire, les résultats, c'est que tout le monde arabe, ensemble, traduit en un an la même quantité de livres vers l'arabe que la Grèce traduit dans les premiers trimestres d'une année. Je cite les rapports des Nations Unies. C'est ça la catastrophe. Mais c'est que ça, les pays modérés, c'est ça qu'on appelle les modérés. L'Égypte est considérée comme un pays modéré. L'Arabie Saoudite est un pays modéré. Le Maroc est un pays modéré. La Tunisie de Ben Ali est un pays modéré. Mais ça, c'est laisser ces peuples à l'abandon. À l'abandon total. Et c'est même pas au nom, seulement au nom de pétrole, tout comme ça, l'Égypte n'a pas de pétrole, c'est pas ça la question. C'est parce que la question de la décolonisation, c'est pas la question territoriale, c'est pas décoloniser les terres, c'est décoloniser les mentalités. Et puisqu'on a décolonisé les terres et tout, l'Occident considère, et l'Occident européen en premier, qu'il n'a pas assez décolonisé, puisqu'il a colonisé. Il a décolonisé le territoire, il n'a pas à décoloniser sa mentalité. Et ça, ce n'est pas encore fait. Donc, voilà.
Je me permets de reposer une question. Je voudrais revenir sur la question du boycott. Bon, je suis d'accord avec ce que tu as dit sur le fait qu'il se passera peut-être des événements extrêmement importants avant que le boycott ait un effet économique notable, et que le plus important, c'est la libération de la parole et l'intervention sur le terrain public pour remettre en cause tout ce que l'on n'ose pas dire finalement sur Israël, y compris devant la caissière, etc. Maintenant, si je pense ce que tu avais dit au début, c'est la situation est complètement différente avec celle de l'Afrique du Sud. Je suis pas absolument persuadé, bon, il faudrait que je vérifie, mais je suis pas tout à fait persuadé que en Afrique du Sud, la baisse des ventes des oranges à Outspan ait joué un rôle extrêmement important dans l'évolution de la situation politique. En tout cas, s'il y a eu moins de ventes d'oranges à Outspan, il y a certainement pas eu moins de ventes de diamants, qui correspond à quelque chose qui n'est difficilement une cible du boycott, y compris d'ailleurs aussi une Israël, puisque c'est le principal poste d'exportation. Et de revenus, hein, en plus, et de très loin. Bon, mais par contre, ce qui me semble, enfin, là encore je me réfère à l'Afrique du Sud, je crois que ce qui a été très important, ça a été la partie que nous, maintenant dans BDS, on appelle, c'est le D de BDS, c'est-à-dire des investissements. Et le tournant, véritablement, a été à partir du moment où il y a eu une vague de désinvestissement relativement important venant de pays tels que l'Angleterre, les États-Unis, etc., qui avaient toujours soutenu l'Afrique du Sud pendant des dizaines et dizaines d'années. Donc c'est pour ça que je pense que dans le BDS, il y a la libération de la parole, mais il y a aussi le D, c'est-à-dire les campagnes de désinvestissement. Et de ce point de vue-là, je crois qu'en France, celle qui est la plus avancée, enfin ce qui me semble la plus exemplaire, c'est celle de la campagne contre. C'est plutôt contre un investissement, je dirais, dans ce cas-là, c'est-à-dire la campagne contre Agrexco à 7, mais il y a pas mal de choses aussi dans d'autres pays. Donc, bon, j'aimerais savoir un peu quelle est ton opinion là-dessus.
Écoutez, il se trouve que j'ai eu la chance de participer à une réunion extrêmement importante avec les organisations de la campagne de BDS de Jean de Pacpi à Londres, avec les Sud-Africains, qui étaient les coordinateurs de campagne de boycott à l'époque. Et donc, c'est intéressant parce que les Sud-Africains, ils expliquent, ils disent aux Palestiniens, ils disent, vous êtes arrivés aujourd'hui, après 5 ans, depuis l'appel de Pacpi, à ce que nous, ça nous a pris 15 ans. Donc, ça, c'est une chose, des points de vue, de... Mais, la question économique, elle est quand même extrêmement importante, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire une économie globale? Qu'est-ce que c'est les multinationales? C'est-à-dire, ça, c'est des choses qui n'ont pas existé. Et si l'Afrique du Sud, justement, l'exemple de diamants est extrêmement important, puisque l'Afrique du Sud est un pays, vous savez qu'Israël n'a jamais adhéré au boycott de l'Afrique du Sud. Mais pendant toute l'époque de l'apartheid, Israël a gardé de très bonnes relations avec l'Afrique du Sud. Et puisque l'Afrique du Sud est exportateur de diamants bruts et pas de diamants taillés, les diamants partaient par Israël. Et donc, justement, les diamants sud-africains partaient en Israël, taillés en Israël, vendus dans la bourse de diamants à Anvers. C'était ça les parcours. Puisque là, il y avait un exemple d'économie globale, justement. Donc, ça n'a pas marché. D'après les Sud-Africains, les boycotts sur les diamants n'ont pas marché. Les moments que les boycotts d'Afrique du Sud changent vraiment, c'est avec les boycotts culturels et sportifs. C'est les sportifs qui a marché, ça. C'est quand les sportifs eux-mêmes ont refusé de jouer contre des sportifs. Et à un moment crise pour l'Afrique du Sud, c'est la question de pouvoir ne plus pouvoir jouer de... Voilà. De rugby. Les rugby. Ça, c'était un moment. Et ça se venait quand... Des Néo-Zélandais et des Irlandais, des équipes Néo-Zélandais et Irlandais ont refusé de jouer face à des Sud-Africains. C'est d'ailleurs un moment dans lequel l'Afrique du Sud essaye de faire entrer des Noirs dans son équipe de rugby. C'est donc vous voyez, c'est venu non pas même là dans l'économie. Mais je pense que dans la campagne aujourd'hui, et en plus moi, j'ai un problème avec la comparaison avec l'Afrique du Sud en général, mais ça c'est secondaire. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est extrêmement important, c'est la structure économique globale et la question d'influence sur les politiques. Il y a l'accord d'association, l'article 2 des accords d'association, c'est l'accord des privilèges signés entre l'État d'Israël et la communauté européenne. L'article 2 dit d'une façon claire que l'accord sera suspendu au cas des bafouements de droits de l'homme. Alors, on conclut, Israël n'a pas bafoué les droits de l'homme puisque l'Europe n'a pas suspendu cet accord. Et à partir de là, pour moi, c'est une question qui n'est plus une question israélienne, c'est une question européenne, purement européenne. C'est-à-dire, soit vous nous respectez, hein, soit on ne vous respecte pas. C'est-à-dire, c'est l'Europe qui a demandé cet article 2. Ce n'est pas les Israéliens qui ont demandé de dire au cas de atteinte aux droits de l'homme. C'est les Européens. Donc il y a deux choses. Soit que les citoyens européens demandent à la communauté européenne d'enlever cet article. On n'a pas besoin. Soit qu'ils demandent de le faire. Mais pire, puisque le Parlement européen a voté majoritairement en faveur de la suspension d'association. L'accord d'association. Le Parlement européen a voté à majorité. C'est ça. Mais le Parlement européen, ça sert à rien, le Parlement européen. Le Parlement européen, c'est pour payer des salaires à Cohen Bendit et à ses copains. Ça sert à rien. On est le Parlement européen, puisque c'est le Conseil des ministres qui décide. Et donc c'est pour ça que, à partir, pour moi, ça va simplement sur la question de l'intimidation, puisque quand on parle de l'accord d'association, il y a très peu de produits. C'est ça aussi au niveau de l'économie israélienne. Il y a très peu de produits qu'Israël exporte que nous, on a en tant que citoyens accès. C'est-à-dire... Bien sûr.
C'est israélien,
bien
ça.
Sûr.
C'est-à-dire, c'est de la haute technologie.
Mais bien sûr... Oui, mais ça veut dire quoi? Vous allez dire, moi, je ne vais plus à l'hôpital maintenant. Soit moi, si vous m'opérez avec des matériels israéliens, moi, non, je ne me fais pas opérer.
Moi, je ressens un grand malaise. Vous voulez que je mente? Mais on peut vous contester sans que...
Oui, non, mais je veux dire...
J'ai l'impression que quand on sort du là, je me dis mais comment on peut agir? Parce que l'accord d'association avec l'Europe, on fait des tracts, on essaye de faire des rassemblements, on informe la population, c'est des choses qu'on fait, mais le rapport de force, on l'a pas aujourd'hui.
Mais vous expliquez comment il faut faire. Mais je dis d'une façon, je suis pour le boycott. Je suis pour appliquer le boycott. Je dis simplement venir et dire aux gens, vous allez boycotter, vous allez démolir l'économie israélienne, c'est mentir aux gens. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'une attente économique. C'est pas une attente économique. Mais c'est pour ça que je parle, je dis simplement... Parler en termes économiques de boycott, parler au terme économique de boycott, hein, c'est ne pas dire la vérité. La majorité des matériels qu'Israël exporte, c'est d'abord un matériel qui n'a pas accès à la population globale. C'est-à-dire, personne parmi nous achète des portiques de sécurité, des barbelés électrifiés, des chars, etc. Sauf que si vous achetez des chars, peut-être. Ça, c'est un. Deuxièmement, on peut se baser, il y a deux possibilités. On peut tenir les discours, il ne faut pas décourager Biancourt. Moi, je suis né après ça. Moi, c'est vrai. Maintenant, le militantisme, soit il est basé sur la vérité factuelle, soit il ne sert à rien. Dire, on va boycotter, ça va démolir l'économie, tout. Je ne suis pas en train de décourager. Je suis en train d'encourager dans la vérité. C'est-à-dire, la question, c'est l'intimidation. Les rapports de force, on va les créer quand il n'y aurait plus la question de les boycotts, c'est illégal. C'est pour ça que, en étant membre du comité éditorial d'édition La Fabrique, hein, j'ai amené et fait voter un livre qui va sortir la semaine prochaine qui s'appelle BDS, écrit par Omar Barghouti, qui explique ça. Mais venir et dire, vous arrêtez de manger des dattes au Ramadan, l'État d'Israël va tomber économiquement, c'est faux. Point. C'est faux. Israël exporte très peu de produits de grande consommation vers l'étranger. Point. Ça, c'est la vérité. La consommation agricole, l'action à Gretzko, dans laquelle je suis venu au sud de la France pour parler directement de l'Angleterre, est importante. Mais elle n'est pas importante sur le plan économique. Mais oui, Mais c'est ça la campagne, les désinvestissements, c'est désinvestir de ces liens privilégiés qu'il y a Israël. C'est pas une question économique, c'est l'intimidation. C'est-à-dire la caissière qui passe de Carmel, elle doit se sentir mal. Les patrons de supermarché qui prend les mangues israéliens doit se sentir mal parce que les clients viennent et le disent, chérie, tu prends les mangues, etc. C'est ricoucher là, quand ça va monter, c'est comme ça qu'on va changer les rapports de force. C'est comme ça qu'on va changer les rapports de force. Qu'on va dire au maire et tout, tu veux être réélu? On veut plus que dans les cantines il y aurait des avocats Carmel. Non, pas parce que le fait qu'il met des avocats Carmel, ça fait enrichir les Israéliens. Et c'est ça que les discours d'encouragement. C'est dire la vérité là-dessus. On va pas démolir l'économie israélienne, mais oui, on peut démolir la chose la plus importante de l'État d'Israël, qui est son image.
Et on voit bien d'ailleurs qu'il le redoute terriblement.
Il le redoute terriblement, mais pas économiquement. C'est pas une question économique. Donc allez raconter aux gens, arrêtez d'acheter des oranges de Jaffa parce que vous allez porter atteinte à l'économie. Et c'est pour ça que les discours avec, que la comparaison avec l'Afrique du Sud me paraît absolument injuste. Me paraît injuste par rapport au militantisme. Je pense qu'on ne sera pas gagnant. On ne sera pas gagnant en tenant un discours d'ambiguïté sur la question économique.
Mais il n'empêche que tout ce qui est fait effectivement pour remettre en question l'image que veut se donner Israël, il le redoute énormément. C'est pour ça que le CRIF réagit énormément chaque fois qu'il y a une voix dissidente qui s'élève un peu. C'est pour ça que quand Israël dit il faut que chaque juif se transforme en ambassadeur d'Israël, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut... Et en faisant ces campagnes de boycott, c'est pas seulement pas bouffer, mais c'est faire savoir. Et se faire savoir est capital. Tout à fait, pour tout faire.
Oui,
Là, je vois les petits yeux qui commencent à clignoter. Et je crois que tout le monde est un petit peu fatigué.
Juste un dernier mot.
Alors, on va peut-être poser une dernière question, mais avant que quelqu'un d'autre se lève, je voudrais dire une chose. C'est qu'il y a de très, très beaux films que Eyal Sivan a fait avant celui-là. En particulier, Route 181. On lui en a commandé plusieurs coffrets. Donc, demandez-les à la caisse. Faites savoir qu'ils existent, offrez-les, et on en parlera dans la prochaine Gazette, parce qu'on ne savait pas qu'on allait les avoir. Donc, faites-les, voyez-les, c'est magnifique. Une dernière question.
Non, je veux dire, on n'est pas tous que des lambdas d'une grande, de grands consommateurs. Je pense que tout un chacun vit dans le monde globalisé aussi. Et que on sait très bien que les entreprises très performantes en Israël sont présentes dans les télécoms, dans le spatial, dans le Galiléo, dans les systèmes que tous nos députés et ministres votent, et que en cherchant de ce côté-là, on peut influer vers son député, vers son maire et vers son.
Mais on peut plus que ça. On peut par exemple refuser de participer dans un colloque dans lequel il y a un Israélien qui vient d'une université israélienne, qui est voyage avec les frais de l'ambassade d'Israël. On peut ça. Comme on a fait en Angleterre, il y avait un réalisateur qui était amené à un festival d'Edinburgh. C'est l'ambassade d'Israël qui a payé les billets d'avion. On est allé, un groupe de gens, on a dit à Ken Loach qui était invité, on l'a dit, retire-toi. Il a dit, moi, je ne veux pas être dans un festival dans lequel l'ambassade d'Israël achemine des réalisateurs. Il s'est retiré. Ça, on peut faire. Et ça fait beaucoup plus mal qu'autre chose. Je ne dis pas qu'il faut faire que ça. Mais c'est toujours, pour moi, c'est la question de le faire savoir. De le faire savoir. Mais ça circule dans le monde entier. C'est simplement, ça circule dans le monde entier. Quand les Français vont se mettre à lire l'anglais, alors ils pourront le lire aussi sur Internet.
Ça a été très absorbé en France aussi.
Hein? Oui, ça a circulé beaucoup et tout. En France, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité dans cette histoire. C'est-à-dire, il y a eu des associations qui étaient extrêmement frileuses sur les boycotts. Oui, on boycotte, mais quel est le territoire occupé, quel machin. Les boycotts académiques et culturels est quelque chose qui est mal vu en France encore. Et en plus, on a peur. C'est ça la vérité. Nous, on a 37 universités en Angleterre qui boycottent. 37 universités dans lesquelles ont rompu toute relation académique, y compris n'accepte pas des étudiants, sauf qui ont servi dans les territoires occupés. C'est comme ça. Et c'est ça la chose. C'est facile. C'est pour ça que les discours, alors que ça fait quelques années que je suis pour le boycott, mais les discours sur le boycott économique et tout, trop facile, s'attaquer aux vendeurs sur les marchés qui vendent avant le ramadan les dates israéliennes. Moi, c'est les professeurs d'université qui vont dire, moi, dans un colloque où il y a des Israéliens qui viennent de l'université de Jérusalem, qui exproprient maintenant des terres des Palestiniens de Jérusalem-Est pour construire des appartements pour des étudiants, moi, je ne participe pas avec des profs de l'université hébraïque. Là, ça va commencer à faire mal. Non, mais qui était au courant? Moi, quand je me suis retiré du Forum de l'image de la rétrospective de cinéma israélien sur Tel Aviv, je l'ai fait savoir, ma lettre a circulé, elle existe dans toutes les langues et tout. Alors que c'était le Forum de l'image en France, et j'ai fait la lettre en français, en anglais, d'un côté. En Italie, elle a été imprimée en manifestant en première page en italien. En France, elle n'a pas été reprise par un média. Mais ça c'est parce que les journalistes français sont trouillards, parce que les sionistes ont bien travaillé. C'est nous qui avons mal travaillé. Eux, ils ont bien travaillé, ils ont intimidé. Moi, j'ai des copains journalistes en France qui disent, on n'en parle pas pour ne pas avoir des emmerdes.
Juste quelque chose, nous travaillons à l'heure actuelle, ici en Midi-Pyrénées, à la préparation d'une campagne contre les coopérations, voilà. En particulier les coopérations au niveau haute technologie entre instituts et universités de la région et leurs équivalents en Israël, en particulier le Technion, et d'autre part les coopérations entre sociétés privées telles que EADS, Astrium et les sociétés militaires israélienne, Elbit, IAI ou Rafael Industries. Donc c'est un travail qui n'est pas facile à préparer parce que bon, on manque beaucoup d'informations, c'est pas vraiment le domaine dans lequel ça se répand très très facilement, mais c'est une campagne qui est préparée par toutes les associations qui se réclament du BDS dans la région, et en particulier donc celle qui a été à l'initiative de qui a proposé cette soirée, c'est-à-dire Stop Apartheid, dont je fais partie. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre contact. Voilà.
Simplement, dans ce site, pour conclure, aujourd'hui, il n'y a pas de bateaux israéliens qui peuvent accoster en Écosse et en Irlande, par exemple, parce que les syndicats des dockers écossais et irlandais ont rejoint l'appel de boycott. Donc, évidemment, qu'un docker tout seul, il ne paie rien. Un docker tout seul, comme la EADS, on ne pourra rien. Mais si un jour viendra dans lequel les syndicats français eux-mêmes vont rejoindre la campagne de boycott, alors là, peut-être, les ouvriers pourront se dire, nous, on ne décharge pas des camions avec des matériels israéliens. C'est là que ça va changer. Non, bien sûr, non, je connais, c'est pour ça que je dis, si un jour les syndicats vont rejoindre, c'était un petit peu un appel messianique, oui. Bonsoir et merci.
Comme vous pouvez le voir. J'ai commandé. J'ai commandé.
Je ne savais pas comment l'éteindre, du coup je ne l'ai pas éteint.
Écoute, t'as bien fait.
voilà. Et bon, à la fin, vous parlez.